Il a rien. Sociologie dans un petit duo, peut-être Philippe Pujol, Samia Chabani. Éventuellement aussi, ça me paraît difficile de ne pas du tout parler de Verduron et de l'Oppidum.
Ah oui.
Voilà, je sais pas dans quel ordre vous voulez faire ça. On est quand même dans un lieu qui a des activités économiques, formelles, informelles, légales, illégales. Ici, on travaille, quoi.
Ce que je vous invite, c'est à regarder vers la mer, à la fois pour redécouvrir la pente, mais aussi pour imaginer que jusqu'à la mer, c'était au 19e une alternance de campagne et de bastide. Mais aussi un paysage industriel au 19e qui s'accentue avec des tuileries qui ponctuent le paysage et des creux. Alors Thierry a fait référence en fait aux creux et à l'aménagement urbain qui s'ensuit. Moi je voudrais revenir un peu sur ce patrimoine industriel qui a fait le bassin de Séon. Alors le bassin de Séon, c'est le bassin argileux de Marseille avec une dynamique économique très forte, avec une intelligence des tuiliers. La création très tôt, en 1900, d'un comptoir unique des tuiles qui va permettre à tous les tuiliers d'avoir des modalités de transport et de diffusion des tuiles vers plus de 50 destinations dans le monde. Si bien qu'aujourd'hui, que vous alliez à Saint-Louis du Sénégal ou en Algérie, vous allez retrouver des tuiles de Marseille. Et un bassin argileux qui a quand même fait appel donc à de nombreuses vagues migratoires, qui a commencé avec les Espagnols, les Italiens, notamment les Piémontais qui ont beaucoup occupé ce territoire, puisqu'on disait qu'au 19e, Marseille était ville italienne. Donc une dynamique économique qui va se faire sur à la fois l'achat de brevets et l'intelligence des industriels qui vont vraiment aller chercher le progrès technique pour passer de la fabrique de tuiles à l'industrialisation, et également un appel à la main-d'œuvre étrangère qui va se faire progressivement, va se tourner vers la main-d'œuvre dite coloniale, puisqu'évidemment, au fur et à mesure du temps, les Piémontais, les Espagnols, les Arméniens vont se syndiquer, vont représenter une force, vont s'intégrer aussi par le syndicalisme. Et que donc on va aller chercher un peu plus loin des mains-d'œuvre qui vont être aussi moins bien insérées et qui vont progressivement venir remplacer ces mains-d'œuvre-là. C'est vrai dans la tuilerie, mais c'est vrai dans l'huilerie, c'est vrai dans toute une série d'industries qui ont fait la prospérité économique de Marseille. Ces populations, on les voit aujourd'hui, on les interprète comme un peu illégitimes dans leur présence parce que pour la plupart d'entre elles, c'est une réalité, c'est le chômage qui a pris le dessus et parfois l'échec. Il faut bien dire ce qui est d'un modèle français d'intégration. Mais c'est aussi ce grand séisme en fait, qu'ont connu tous les Marseillais, hein, qui est à la fin des années 70, la fermeture de ces entreprises avec la mise au chômage d'une grande catégorie de personnes. Et ce qui est assez frappant à Marseille, c'est que quand une usine fermait, c'était vraiment des quartiers entiers qui étaient mis au chômage. Ce qui fait aussi la spécificité de ce bassin, en termes de bassin de vie, c'est qu'il a permis à un certain nombre de populations de faire l'expérience de l'autoconstruction de leur habitat, avec des traces qui sont encore, pour je ne sais pas combien de temps, encore visibles, il faut en profiter. Les courées ouvrières que vous pouvez découvrir encore à l'Estac, mais aussi à Saint-André. Et puis voilà, toute une série d'habitats autoconstruits qui étaient complètement attenants aux usines et aux fabriques et aux tuileries, et qui permettaient aux gens d'avoir un habitat qui était très très proche à terre battue, j'ai envie de dire, et qui souvent, dont souvent les gens sont aussi nostalgiques quand ils témoignent, puisqu'ils partent quand même d'une grande relation d'entraide entre les habitants. Ce qui aujourd'hui semble assez décousu et assez délité, alors même que les gens ont gagné, entre guillemets, en confort dans l'habitat social, mais qu'ils ont perdu en convivialité. Et souvent, ils évoquent ce rapport au sol et à la terre, ce rapport qui a longtemps été vertical et qui devient horizontal. Et non, c'est l'inverse, qui était longtemps horizontal et qui devient vertical, pardon. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu, alors même qu'on a une super belle vue sur la mer de ce point de vue-là, quoi.
Partir sur ce qu'est le Verduron, c'est plutôt d'anciens ouvriers en tout cas qui y vivent. Et il y a notamment un personnage qui est très marrant, très intéressant, qui habite au Verduron, dont je ne connais pas le vrai nom, mais je connais son nom d'usage, il s'appelle Black Eagle. Et il s'appelle Black Eagle parce que sa grand-mère était une indienne, et elle était arrivée avec Buffalo Bill, et elle est tombée amoureuse de quelqu'un ici, d'un ouvrier, et elles ont eu des enfants, dont Black Eagle. Et Black Eagle, un jour, m'appelle à la Marseillaise, enfin pas moi en particulier, appelle le journal, je décroche, il me fait « Oh, c'est Black Eagle ». Moi, je l'écoute, je ne raccroche pas. Et il me fait, il y a Godin, il est en train de me faire une cicatrice dans la colline de Huancatanca. Moi, je m'intéresse à ça. Puis avec une copine en bas, il y avait un projet immobilier juste derrière la colline, là, qui n'avait pas été tellement déclaré, enfin, qui n'était pas très légal. Et c'était l'endroit où il allait cueillir ses plantes médicinales, c'est-à-dire du romarin. Et lui, ça l'emmerdait de voir qu'il y a des pelleteuses qui creusent comme ça. Wankatanka, c'est le dieu des Indiens, donc c'est la colline de Wankatanka, ça. Et après, je me suis intéressé au personnage, qui était une sorte de mascotte pendant longtemps. Maintenant, il les a tellement emmerdés qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Mais c'était une mascotte du Verdurant, parce qu'il s'est porté comme défenseur du maintien dans cette forme-là du Verdurant, parce qu'il y avait des projets immobiliers, et grâce à Black Eagle, ils n'ont pas eu lieu. Et il avait une particularité, il travaillait aux milles. Les milles, c'est pratiquement là où on était ce matin à plan de campagne, c'est même un peu plus loin. Il travaillait aux milles au centre de tri postal, et tous les matins, pendant 20 ans de sa vie, il allait à pied à travers les collines, des milles, jusqu'au centre de... comme un Indien, quoi. Et il revenait à pied, quel que soit le temps qu'il faisait, il n'a jamais manqué un seul jour. C'était 20 bornes, il traçait droit, il faisait aller-retour, il prenait du romarin, des plantes dont on ignore toute existence. C'est un personnage farfelu, un personnage génial, comme on en trouve beaucoup à Marseille, qui est du Verdurant.